Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Je n'ose même pas, Sidonie, vous demander si ça va.
Mais ça va super bien, j'ai juste acheté une nouvelle voix ce week-end, mais je regrette, je vais reprendre l'autre.
Assez glamour la voix rocailleuse.
Ah, vous trouvez quand même, bon, je vais essayer d'en profiter. On est ensemble pour une heure de découverte, de coulisses, de secrets, tout ce qui attise notre curiosité.
Alors, il y a quoi dans cette émission si vous nous découvrez à cet horaire à 14h, entre 14 et 15h sur RTL? Il y a de l'aventure, il y a de la science, il y a des destins hors normes, il y a des sagas musicales, de l'histoire et tout ce qui fait notre quotidien aussi.
Il nous suit partout, on lui confie tout, le réseau social Facebook a tout d'un ami. Pourtant, il n'hésite pas à faire les poches, à nous faire les poches, à voler nos données, piller aussi notre vie privée pour gagner de l'argent. On vous dira toute sa face cachée.
Allez, tout de suite, le roi du suspense et de l'horreur. Mais qui est vraiment Stephen King ?
Curiosité est un vilain défaut.
Tous les élèves sont là, même Carrie White. Une fille que personne n'aime.
Je m'appelle Carrie.
Et dont tout le monde se moque.
RTL.
Une fille qui vit dans une maison bizarre, avec une mère plus que bizarre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Oh, cette malheureuse pécheresse à part le péché sous ses horribles trempeurs.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Carrie, l'un des plus grands succès de Stephen King, il y a aussi Shining, ou alors ça, It, c'est le titre anglais, qui vient de cartonner au cinéma. C'est le phénomène de la rentrée cinéma aux États-Unis. Le film sort mercredi en France, adaptation d'un roman de King, indémodable alors qu'il va fêter ses 70 ans. Mais qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dans son crâne? C'est Bernard Lehu qui va répondre à cette question. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Bienvenue, oui, on est ravis.
Oui, Sidonie, on a l'impression que vous êtes une créature justement de King, avec un être extérieur qui serait entré en vous et qui vous donne cette voix très étrange.
Mais elle s'adapte, oh, j'ai peur maintenant de
elle s'adapte au programme, oui, c'est ça. Tiens, un petit mot de ça, qui est adapté au cinéma et qui sort mercredi en France. Ça raconte quoi?
Alors, c'est l'histoire d'un clown qui, à lui seul, incarne le mal, hein, sous toutes ses formes. Mais là, il prend la forme particulière d'un clown qui terrorise une ville, Derry, en particulier les enfants, et qui les mange. Un clown cannibale.
Vous savez que c'était méchant, les clowns, j'ai toujours su.
Ben, vous savez d'ailleurs que les associations, les syndicats de clowns à travers le monde protestent contre cette nouvelle adaptation en disant « Mais c'est terrible, voilà, maintenant les enfants pleurent, ne viennent plus à nos spectacles. »
Derry, c'est une ville créée par King qui revient dans la plupart de ses romans, c'est ça ?
Alors qui est très très présente dans Carrie et qui incarne, alors on la retrouve sous d'autres noms, sous d'autres formes dans beaucoup de ses romans, c'est l'incarnation de la ville moyenne américaine avec ses secrets, ses non-dits, ses mystères.
Bernard Lehu, Stephen King est un auteur très adapté au cinéma, en série télévisée aussi. Pourquoi il inspire tant ? Qu'est-ce qu'il dit de nous pour qu'on l'aime tant et qu'on aime autant écouter et voir ses histoires ?
Je crois qu'il remue en nous toutes les peurs venues de l'enfance, les peurs ancestrales, ces peurs que l'ensemble de l'humanité partage. Et puis, on l'a déjà évoqué il y a un instant, il y a aussi cette peinture, cette évocation des États-Unis, d'une Amérique profonde, la référence à des grands événements de l'histoire américaine, l'assassinat de Kennedy, la peur d'un conflit nucléaire. Enfin voilà, donc c'est un auteur qui est vraiment ancré dans notre époque, mais aussi ancré dans tout ce qui fait, dans tout ce qui nous constitue, à commencer par ces grandes peurs, ces grands fantasmes.
Mais avec des monstres, des personnages extraordinaires et puis aussi des personnages ordinaires, monsieur et madame tout le monde.
Oui, et je dirais, tout à l'heure je vous taquinais avec votre voix là, un peu bizarre, mais c'est ça la patte King, c'est le mal qui s'insinue à l'intérieur d'êtres ordinaires comme vous et moi et qui d'un seul coup sont transformés en créatures surnaturelles, sauvages, épouvantables.
Alors Bernard, on va découvrir grâce à vous comment Stephen King est devenu ce phénomène mondial de l'édition. Ça, on reste sur ce roman qui est adapté au cinéma. Avant de battre des records au cinéma, c'était déjà un phénomène d'édition ?
Ah bah, c'est bien simple. C'est un livre qui est entré dans l'histoire de l'édition. On est déjà pas mal avancé hein, dans la carrière de Stephen King. C'est le premier roman qui, lors du premier tirage, est distribué dans les librairies aux États-Unis. À 1 million d'exemplaires. C'est un record, je crois, qui n'a pas été battu jusqu'à présent.
Ouais. Et il est resté dans la liste des best-sellers pendant des semaines et des semaines, c'est ça?
Oui, genre
34 semaines, je crois.
34, ouais. Dont la moitié
à la première place. Quoi. Ouais,
voilà. Alors, il faut dire aussi que Stephen King détient un autre record. À un moment donné, il a eu 8 de ses titres classés dans les meilleures ventes.
Alors ce film,
au même
ça,
moment, hein.
Ouais, c'est dingue.
C'est un record. Ce film, ça, le réalisateur Xavier Dolan affirme que c'est son film préféré du siècle, vous imaginez? Alors est-ce que c'était vraiment un chef-d'œuvre? On va poser la question à quelqu'un qui l'a vu et qui connaît aussi par cœur l'œuvre de King. Bonjour, Émilie Fleuteau.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes responsable du site stephenkingfrance.fr. Est-ce que vous avez aimé ce film, ça?
Oui, beaucoup. Alors, dans ce film, il y a plusieurs aspects. Déjà, c'est un très bon film d'horreur. C'est un film qui reprend les codes du genre d'horreur, qui est très efficace. Ensuite, c'est aussi un très bon film parce que c'est très beau, très envoûtant. On a des très bons effets spéciaux. Il est extrêmement bien réalisé et le casting est vraiment très, très bon. Et aussi et surtout, et c'est là où ça rend justice à l'œuvre de Stephen King et notamment où ça le rend plus proche du livre que la première adaptation, il est extrêmement violent et très vicieux. Et le réalisateur a réussi à trouver l'équilibre entre la cruauté, le sang et les monstres qui sont propres à l'œuvre de Stephen King et en même temps à la part de beauté qu'il y a dans l'horreur de King avec cette ambiance, cette atmosphère très teenager avec la nostalgie des années 80. En fait, c'est un bon film d'horreur et c'est un très beau film en même temps.
La question qu'on se pose, c'est est-ce que Stephen King l'a aimé ce film? Parce qu'on sait qu'il est assez sévère, notamment il n'avait pas aimé Shining de Kubrick. C'est est-ce qu'il a aimé ça?
Oui, il a beaucoup aimé ça. Il l'a tellement aimé qu'il l'a vu deux fois et il a déclaré d'ailleurs qu'il avait beaucoup d'espoir à propos de ce film, mais qu'il n'était pas prêt à ce que ce soit aussi bon. Et d'ailleurs, il a déclaré aussi que pour lui, le public va beaucoup s'y identifier et aimer les personnages parce que tout est à propos des personnages, comme le disait très bien Bernard Lehu. En fait, l'horreur de Stephen King, c'est parce que c'est l'horreur qui est en nous-mêmes et pas forcément celle qui est dans les monstres. Et du coup, comme il le dit, on veut que ses enfants gagnent, on veut que tes enfants vivent et la peur fonctionne parce qu'on aime ses enfants et on aime ce club des ratés.
Merci beaucoup, merci Émilie Fleuteau de votre regard sur le film et sur l'œuvre de Stephen King. Je rappelle votre site stephenkingfrance.fr. Un King qui... Oui Bernard, un mot?
Je voulais dire qu'on peut déjà aller voir la bande-annonce hein, qui est sur les réseaux sociaux et qui confirme ce qui vient d'être dit. Esthétiquement, c'est sublime et c'est absolument terrifiant.
On va y aller très très vite. King qui invente des monstres, mais sa vie à lui, est-ce qu'elle est tranquille ou trépidante? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement.
La curiosité est un vilain défaut.
Petit cochon. Allons, ouvrez-moi donc.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
De me refuser l'entrée, il n'est pas question.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Je ferai sauter la maison.
Le roman de Stephen King, Shining, adapté par le réalisateur Stanley Kubrick. Bon, Stephen King n'a pas vraiment aimé. En revanche, il aime bien la nouvelle adaptation de son roman, ça, qui sort mercredi en France. Une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King, qui est l'auteur vivant le plus adapté à l'écran. On découvre les secrets de ce succès avec Bernard Lehu. Alors, c'est vrai que m'en voulez pas, hein, c'est ma voix qui tremblote, qui hule. Quand on lit un roman de Stephen King, et Dieu sait que je suis une grande fan, on se demande toujours, on se dit, mais qu'a-t-il vécu cet écrivain dans son enfance pour inventer de telles horreurs? Ce qu'on sait, c'est qu'il naît le 21 septembre 1947 et que très vite, son père disparaît de la circulation. Pour quelle raison?
Oui, alors Stephen King a 2 ans quand son père disparaît. Un beau jour comme ça, il dit « je vais acheter un paquet de cigarettes » et puis il ne reviendra jamais. L'explication, elle est simple malheureusement. C'était un mari très volage et qui, visiblement, est parti vivre sa vie et a laissé abandonner du jour au lendemain donc sa femme. Et 2 enfants, puisque Stephen King a un frère qui est un enfant adopté.
Est-ce qu'il a une enfance malheureuse, Stephen King, liée notamment à la perte de son père?
Une enfance difficile, malgré tout, parce que sa mère a dû élever seule ses deux fils, donc dans des conditions matérielles assez éprouvantes, mais en même temps toujours entourée d'amour, avec une mère très, très aimante. Et très vite, le démon de l'écriture s'est emparé de lui. Il a écrit des histoires tout petit. Sa mère l'a repéré et à l'âge de 11 ans, lui offre sa première machine à écrire. Et au lycée, il écrit, il publie et il arrivant à l'intérieur du lycée sa première nouvelle. Et ce qui est cocasse, c'est que la directrice de l'établissement l'oblige de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle l'oblige à rembourser l'argent qu'il avait gagné avec les exemplaires achetés par ses petits camarades.
Ouais. C'était un enfant un peu souffreteux, on peut dire ça, il était souvent malade ?
Oui, alors pourtant c'était une grande carcasse, ouais. Hein, mais un enfant assez fragile, qui ne pouvait pas pratiquer le sport et qui se réfugiait donc dans ce sport en quelque sorte qu'est l'écriture.
Mmh. Il se présente souvent comme un homme simple, Stephen King. Alors est-ce que c'est l'humilité ? Est-ce qu'il se rend pas compte qu'il est peut-être complètement zinzin ?
Alors, il est à double face. D'un côté, c'est vraiment l'archétype de l'Américain moyen. Il suffit de le voir, toujours avec ses chemises à carreaux, en jean, basket ou Santiago. Et au quotidien, c'est vrai qu'il mène une vie très simple, entouré de sa famille. Mais bon, et en même temps, c'est évidemment une star mondiale. Depuis, sa vie est devenue prospère. Et en particulier, il s'est acheté une espèce de manoir victorien à Bangor, sa ville dans le Maine.
Mais il est resté fidèle à sa région natale. Oui, le Maine, c'est vraiment...
Oui, toujours.
Sa région et le décor de ses romans, d'ailleurs.
Il ne l'a jamais quitté, donc il vit dans cette maison avec 23 pièces, malgré tout. Donc, on mène une vie simple, oui, peut-être, mais dans une maison qui fait 23 pièces.
Fidèle au Maine et fidèle à sa femme aussi, Tabitha, qui joue un rôle dans sa vie. Contrairement à son papa, il est resté fidèle.
Ben oui, c'est un vrai couple qui dure, puisqu'ils sont ensemble, je crois, depuis plus de 40 ans maintenant. Et en plus, il y a toujours cet habitat joué un rôle clé à plusieurs moments de la carrière d'écrivain de Stephen King.
Alors, on racontera une anecdote à ce sujet tout à l'heure, mais il y a un moment où elle a joué un rôle vraiment central pour sa santé, parce que Stephen King, il est devenu addict, c'est-à-dire qu'il était accro à la drogue, à l'alcool. C'est à quelle période de sa vie ? On fait un peu dans le désordre, mais c'est à quelle époque ?
Alors, il commence par l'alcool. Au début de sa carrière, c'est très difficile. Hein. Alors, il est prof de formation, il a du mal à trouver un emploi. Mm-hmm. Il va travailler dans une blanchisserie industrielle un moment de sa vie. Et puis, il n'arrive pas à se faire publier. Voilà, ses manuscrits n'intéressent personne. Et donc, à ce moment-là, dans ces années relativement difficiles, il va commencer à boire. Et puis ensuite, lorsque le succès sera là, il va tomber dans d'autres addictions. La drogue, la cocaïne en particulier, et les médicaments. Et vraiment, il sera très très lourdement atteint. Hein,
et un jour, sa femme le sauve d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'elle fait ?
Ah bah alors c'est très simple. Devant la famille réunie, dans un sac, elle a rassemblé tout ce qui représente sa consommation d'une semaine, donc les boîtes de médicaments, les bouteilles vides, etc. Et elle lui dit ou tu fais une cure de désintoxication, ou tu quittes la maison. Évidemment, Stephen King partira en cure de désintoxication, et ce qui est incroyable, formidable, c'est que depuis, il est guéri totalement et il n'a plus touché une goutte d'alcool.
Alors, vous nous le disiez, Bernard Lehu, avant de devenir très riche et mondialement célèbre, Stephen King vivait dans une caravane et avait du mal à joindre les deux bouts. Le livre qu'il a fait connaître, c'est Carrie, et pourtant, il avait jeté les premières pages. Qui a sauvé son manuscrit ? Réponse dans un instant sur RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL. Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL. RTL.
Combien est-ce que vous en voulez ? Je suis prêt à l'acheter, quel que soit le prix.
Je vais la démarrer.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle s'appelle Christine.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Que sais-tu exactement sur cette voiture ?
Je sais que le gars qui l'avait avant Arnie, sa fille est morte asphyxiée dedans.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Stephen King, c'est l'indémodable, le Michel Drucker du roman, et ses livres deviennent des films comme Christine, dont on vient d'entendre un extrait, ou des séries à succès. Et on découvre, grâce à Bernard Lehu, les secrets de fabrication de Monsieur King. Vous l'avez rencontré, Bernard, c'était en 2013. Voilà ce qu'il disait à propos de ses lecteurs les plus fidèles.
The thing is, most of them...
Beaucoup de fans me disent... Vous savez, Shining est le livre qui m'a le plus fait peur. Alors je leur réponds oui, mais vous aviez 14 ans, vous étiez en colo et vous lisiez sous la tente avec une lampe torche. Bien sûr que je vous ai fait peur, mais c'était facile. Vous étiez encore vierge. Maintenant, Ils ont grandi. Et quoi que vous écriviez, ils diront
« Well, that wasn't very scary. »
C'est nul votre truc, ça ne fout pas les jetons.
Il a le sens de l'humour, Stéphane.
Ben oui, il est drôle. Ça, c'était la grande découverte lors de sa venue à Paris, donc en 2013. Il avait fait le show, hein, là, donc il avait donné une conférence de presse européenne avec plus de 200 journalistes. Et voilà, c'était un showman avec beaucoup d'humour, d'autodérision, un peu de sens de la provocation, bien sûr.
Mais il aime pas trop la promo.
Ah non, il est très discret, il est très rare. Alors, autant il est présent sur les réseaux sociaux, son compte Twitter, Facebook, etc. Mais dans les médias classiques, il est assez rare. Et donc, en France, il n'était jamais venu. C'était la première fois, en 2013, qu'il assurait la promotion d'un de ses titres.
Et on peut dévoiler un petit secret. Bernard, vous m'avez montré la photo que vous aviez prise avec Stephen
oui,
King.
Ça, celle-là,
je la garde. Elle est dans mon
téléphone. Voilà, en 10 ans, c'est sans doute la première et la dernière fois, parce qu'il y a peu de chances qu'il revienne, quoi, c'est ça?
Ben oui, ça, c'est une photo précieuse.
Il a
sa chemise, sa fameuse chemise à carreaux.
Sa chemise à carreaux et un garde du corps aussi. Il est toujours
alors, quand
gardé,
il est venu,
surveillé. Pourquoi
Oui, alors c'était même... Il y a toute une équipe de garde du corps l'entourait pour sa venue à Paris. Je crois que... comme beaucoup d'auteurs américains, d'ailleurs, il faut le dire, c'est la même chose pour des gens comme Dan Brown. Quand ils sont en déplacement, il y a une espèce de parano comme ça qui veut qu'ils soient entourés. Mais il faut dire aussi qu'il suscite des phénomènes d'engouement, de fans. Il avait fait une signature au MK2 bibliothèque donc à Paris et où depuis la veille des milliers de personnes attendaient, certains avaient passé la nuit pour venir se faire dédicacer leurs livres. Donc évidemment, il y a toujours la crainte face à des phénomènes de foule comme ça, d'élan peut-être un peu trop débordant. Et d'ailleurs,
surtout avec les thèmes de ses romans.
Oui, et l'un de ses livres, Misery, raconte justement, c'est l'histoire d'une lectrice qui va enlever un écrivain qu'elle admire et lui faire subir
Elle veut la suite du voilà. Livre. Ça, c'est un de ses meilleurs d'ailleurs.
Ouais, alors Bernard, il faut raconter l'histoire de son premier succès. C'est donc Carrie. On est en 1972, c'est ça, l'été 72, donc dans une période où Stephen King et sa femme Tabitha Tabby sont dans la galère. Non, enfin, ils vivent de petits boulots, il fait des petits boulots dans une blanchisserie. Il commence à écrire. Mais il n'aime pas ses premières pages. Qu'est-ce qu'il fait alors?
Il a jeté les trois premières feuilles à la poubelle. Et puis là, Tabitha, dont on soulignait tout à l'heure l'importance dans sa carrière, va fouiller dans la poubelle, se dit mais qu'est-ce que c'est là, ces feuilles qu'il a jetées? Elle les lit, elle trouve ça formidable, elle lui dit, il reprend l'écriture, et donc quelques semaines, mois plus tard, c'est le premier gros contrat qu'il décroche chez un éditeur, $400,000. Et pour...
400 000 dollars, c'est la vente des droits.
Des droits. C'est l'achat simplement du manuscrit avant ensuite la vente du livre. Et alors là, il se dit quand même, il faut que je remercie Tabitha. Et alors elle est partie faire je ne sais pas où elle est, c'était une fin de journée, donc il sort pour lui faire un cadeau. Tous les magasins sont fermés, il ne reste qu'un drugstore. Et là, il lui achète un sèche-cheveux. Il lui offre un sèche-cheveux.
C'est un magnifique cadeau.
Mais oui, et puis il lui annonce surtout que ça y est, il a signé son premier gros contrat, $400,000. Et là, sa femme pleure et il dit, il l'avait raconté lors de la conférence de presse, c'est formidable parce que le même jour, je signe mon premier gros contrat et je fais pleurer ma femme de joie. Un homme ne peut pas rêver mieux.
Bernard, lui, comment il a cette idée de Carrie, cette histoire de cette jeune fille qui est détestée par ses amis, avec cette scène mythique qui commence au début du film, où en fait ils sont dans des douches en forme de U et cette jeune fille a ses règles, et là tout le monde lui jette des serviettes hygiéniques. C'est terrifiant, quand on l'a vu petit, on n'a plus jamais oublié cette scène.
Le film de Brian de Palma.
On l'a lu, évidemment.
La première adaptation au cinéma. Ah ça, c'est tout le mystère de la création, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau de Stephen King. Je crois qu'il faudrait lui poser la question à lui-même.
On la lui pose.
Stephen King, si on a la chance de le voir débarquer à Paris, allez, on rêve. Stephen King, c'est tout, sauf une petite vie tranquille, parce qu'il veut nous faire croire ça. Mais tiens, une anecdote. Que fait-il, par exemple, après avoir été renversé par une camionnette? Écoutez bien, il la rachète et il la détruit à coups de masse. Voilà, une histoire folle à venir sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Place aux morts! Laissez passer le macabé!
Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça?
RTL.
Place au nouveau macabé! Place au cadavre ambulant!
Percy, ça suffit.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Tu sais parler?
Oui, patron. Je sais parler.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un extrait de La Ligne verte que vous avez peut-être vu avec Tom Hanks. Encore un des romans, une des très belles histoires racontées par Stephen King, adaptées au cinéma. On vous dévoile les secrets d'un des romanciers les plus célèbres dans le monde entier avec Bernard Lehu. Alors c'est vraiment un personnage, ce King. Comme promis, on va vous raconter ce jour de juin 1999 où il a failli perdre la vie. Que lui arrive-t-il ?
Il se promène au bord de la rue chez lui, là, à Bangor, qu'on évoquait tout à l'heure dans le Maine, et il est renversé par une camionnette. Accident terrible, on peut dire que c'est un miraculé, Stephen King. Multiples fractures, près d'un mois d'hospitalisation, 5 interventions chirurgicales, et puis bah, il revient chez lui. Alors il aura beaucoup de mal à se remettre à écrire, hein, quand même le traumatisme est très profond. Et puis là, il fait cette chose que vous évoquiez, Thomas, avant la pause tout à l'heure, incroyable, c'est qu'il rachète cette camionnette pour et ensuite la détruire à coup de masse, alors sans doute que là, quelque part...
Il le fait lui-même.
Donc, c'est pour se défouler, enfin, c'est une façon peut-être d'évacuer son traumatisme, mais aussi, ça n'est pas innocent, c'est pour éviter, il y a un tel phénomène de fans autour de lui, c'est pour éviter que cette camionnette devienne une espèce d'objet de culte, et donne aussi peut-être des spéculations...
Il avait peur qu'un fan la récupère.
Pour que les gens rachètent, récupèrent et revendent par morceaux, par pièces, pourquoi pas, enfin, on peut tout imaginer autour de Stephen King.
Moi, je suis en train de visualiser la scène de Stephen King sortant de sa convalescence et tapant l'objet de ses douleurs à coups de masse. C'est
une scène d'un roman de Stephen
King. Oui, exactement. Mais c'est vrai que on parlait de garde du corps qui entoure tous les grands romanciers et on peut le comprendre. Mais quand on charrie des monstres, quand on invente des monstres, quand on tournicote comme ça autour du mal, comme le fait Stephen King, on peut aussi avoir pas mal de déséquilibrés qui vous suivent, qui vous lisent et qui ont de mauvaises idées. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se protègent.
Oui, c'est ça. C'est bien sûr sa crainte. Mais enfin, jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'a jamais eu de problème majeur. Mais comme on le disait, ses sorties restent relativement rares. Et puis, il est toujours très, très bien protégé. Moi, quand il était venu à Paris, c'était spectaculaire. Hein. C'était quasiment un service d'ordre digne d'un chef d'État ou des très grandes stars pop-rock.
Est-ce qu'il écrit toujours autant, Stephen King? Parce qu'il avait une espèce de mécanique, de gymnastique de l'écriture, c'est-à-dire qu'il fonctionne comment?
Pendant longtemps, alors il faut dire qu'il produisait à une époque 3 romans par an, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc il s'était astreint à une discipline, 2000 mots par jour, soit une dizaine de pages. Et depuis son accident, c'est vrai que, puis l'âge venant, on l'a dit, il aura 70 ans jeudi,
hein.
L'âge venant, il a ralenti le rythme, mais enfin bon, il reste quand même encore assez productif.
Est-ce qu'on lit toujours du nouveau Stephen King ou alors il se sert un petit peu des premiers romans qu'il a écrits qui n'ont pas eu de succès? Pour alimenter aussi son compte en banque, parce que c'est important.
Il a sûrement, enfin je pense qu'il n'en a pas besoin, le compte en banque ça va, mais alors sans doute qu'il a des fonds de tiroir en particulier régulièrement, on publie des nouvelles, des recueils de nouvelles, bon ça doit être peut-être des petites histoires comme ça qu'il avait gardées sous le coude, mais sinon il continue de publier régulièrement des romans, et maintenant ça se passe en famille, parce que ses deux fils se sont mis à l'écriture, en particulier Owen, avec qui d'ailleurs il publie la semaine prochaine le nouveau Stephen et Owen King.
Ah, donc c'est de l'horreur aussi, ils sont vraiment dans la même veine, père et fils.
Bien sûr, et qui, alors, pour l'instant, on n'a que le titre en anglais, Sleeping Beauties, donc les beautés endormies, avec un pitch, comme on dit, qui déjà donne envie, dans une petite ville, à nouveau, on retrouve une petite ville des États-Unis, des femmes s'endorment, sont frappées par un mâle très étrange, elles s'endorment, et elles sont entourées d'un cocon, comme des chrysalides, et lorsqu'elles se réveillent, que ce cocon se déchire, elles sont devenues des monstres.
Voilà,
Sleeping Beauties, donc on le verra en France sans doute l'année prochaine,
une fois
traduit.
Ça donne envie de le lire.
RTL aime la musique.
RTL, c'est
des nouveautés.
Des découvertes.
Mais aussi des standards.
RTL, première radio de France.
Vous écoutez RTL.